Alors, je suis très heureux de me retrouver ici ce soir, un mois après ma première intervention. Et si vous vous en souvenez, nous avions évoqué dans cette première conférence l'émergence du christianisme dans la société païenne, et si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit et expliqué, un paganisme qui était vidé de sa substance parce que réduit en réalité à un pur formalisme. Donc nous avons évoqué cette émergence couronnée par l'œuvre du premier grand empereur chrétien que fut Constantin, qui au travers de l'édit de Milan, il serait plus juste de dire, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, l'édit de Nicomédie de 313, qui est un édit de tolérance. Ne cherchons pas en Constantin un théoricien. Il tient compte des faits, c'est un roi païen, sur un prince païen, sur la voie de la conversion. Il est attiré par le christianisme, sa conversion n'est pas définitive, car comme je vous l'ai dit, il sera baptisé alors que sur son lit de mort, quasiment, à Nicomédie, justement. Donc, c'est une adaptation aux circonstances d'une âme qui chemine. Mais n'allons pas tirer, comme on aime trop souvent le faire dans des milieux assez traditionnels, des théories de tout. L'histoire ne répond pas à une théorie. On essaie d'établir les faits, de considérer les circonstances, et on en tire des conclusions. Lorsqu'on va chercher dans l'histoire des idées qui nous conviennent, des faits qui les corroborent, il ne s'agit pas là d'une démarche historique. C'est une toute autre démarche que je ne qualifierai pas. Mais en tout cas, ça n'est pas la démarche historique. Et on a vu ce Constantin prendre à bras le corps le problème de cette considération de l'émergence du christianisme dans cette société du début du IVe siècle. Et vouloir faire une certaine unité, car déjà il y avait des divisions au sein du christianisme avec la crise arienne. Comme nous l'avons dit, peut-être aurons-nous l'occasion, dans quelques mois, de faire peut-être un cycle de conférences sur l'arianisme, qui est une question très compliquée, et qui a engendré de nombreuses réunions synodales entre le concile de Nicée de 325 et le concile de Constantinople, Constantinople I, de 380. Et là, nous allons avancer un peu dans l'histoire. Donc, ce christianisme émerge petit à petit. Et nous allons ce soir nous intéresser plus particulièrement à l'émergence du christianisme en Gaule. Car évidemment, il n'est pas question de parler de la France à ce moment-là. Et lorsqu'à propos du baptême de Clovis, on parle de filiée de l'Église, on prononce là, sur le plan historique, une pure et simple absurdité. D'ailleurs, le terme filiée de l'Église est un phénomène très récent. On l'a entendu pour la première fois dans la bouche de Lacordaire à Notre-Dame de Paris. Donc, ce n'est pas une expression que les historiens, fussent-ils catholiques comme moi, révère particulièrement. Mais j'aurai l'occasion d'en redire un mot plus avant dans cet exposé. Non, ce que je voudrais d'abord que nous fassions dans un premier temps, c'est que nous dessinions quelle est cette Gaule du IVe siècle et du Ve siècle. Comment la situation se présente-t-elle? Quelles sont les données démographiques, ethnographiques, religieuses? Quelles sont les forces en présence? Quels sont les enjeux? Et on verra très vite que se dessine un face-à-face entre deux peuples barbares, dont l'un manifestement doit l'emporter sur l'autre, parce que ça, c'est une loi de l'histoire. Et nous verrons à ce moment-là émerger effectivement cette conversion du premier roi des Francs qui en fera le premier roi chrétien d'Occident. La France est la première nation chrétienne d'Occident. Mais ce n'est pas la première des nations chrétiennes. La première des nations chrétiennes, c'est deux siècles avant, c'est la vieille Arménie, en 301. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez quel prix j'attache à l'ancrage du christianisme et de la civilisation chrétienne au Moyen-Orient, car comme j'aime à l'écrire et à le répéter, le christianisme est parti d'Antioche, il a traversé l'Oronte et il est arrivé sur les bords du Tibre. La lumière du christianisme va de l'Orient vers l'Occident. Nous aurons l'occasion, le mois prochain, si Dieu nous prête vie, d'aborder ce témoignage extraordinaire que donnent aujourd'hui les chrétiens d'Orient dans ce monde fou et délétère dans lequel nous vivons. Mais pour l'heure, revenons à la Gaule. Et donc on peut dire que à la fin du IVe siècle, au début du Ve siècle, on va assister à une entrée et une prise de pouvoir des barbares dans l'Empire. En effet, de l'embouchure du Rhin à celle du Danube, ce qui fait quand même un certain nombre de kilomètres, parce que le Rhin se jette quelque part au niveau des Pays-Bas dans la mer du Nord, tandis que le Danube se jette dans la mer Noire en Roumanie. Eh bien, le long de ce qu'on appelle le Limès, entre ces deux fleuves, au-delà du Limès, des peuples sont en attente. Ils sont en attente et ils vont passer ce Limès. Ce qui fera dire à Saint Jérôme en 409, donc au début du Ve siècle, « Des nations innombrables et féroces, dit-il, ont occupé l'ensemble de la Gaule. » Si nous remontons un peu dans le temps, en 378, j'ai vu d'ailleurs évoquer cette date le mois dernier, à Andrinople, qui se trouve aujourd'hui en Bulgarie, les Visigoths vont assassiner l'empereur Valence. Et en 382, l'empereur Théodose, celui-là même qui va rendre le christianisme, la foi nicéenne et la foi chalcédonienne à venir obligatoire dans l'Empire, va installer ses Visigoths dans les Balkans. En 406, de nouvelles poussées de barbares, ces peuples sont tous partis très très loin, certains. Ces peuples se sont poussés les uns les autres depuis les plateaux, les hauts plateaux de Mongolie, se sont les uns vers les autres, ils se sont poussés. C'était des peuples nomades qui cherchaient la richesse, la stabilité, l'accès à la mer. Donc en 406, ce sont les Vandales, les Suèves, les Alains, les Astingues qui, pour la première fois, vont franchir le Rhin à Mayence. D'où cette réflexion, 3 ans après, il n'y avait pas Internet. Hein, donc le temps que ces informations circulent soient confirmées et qu'elles arrivent à Saint-Jérôme, qui, je vous le rappelle, était en résidence en Terre Sainte, à Bethléem, où il traduisait la Bible en latin. En 395, et ça c'est une date très importante, face à ces menaces des barbares, la préfecture des Gaules se trouvait à Trèves. Trèves est aujourd'hui une ville qui se trouve en Allemagne. Et lorsque l'on parle de la Gaule à cette époque, il faut bien entendre par la Gaule, grosso modo, ce qui correspond aujourd'hui à la France et à l'Allemagne. En 410, donc peu de temps après cette installation des Visigoths dans les Balkans, il va déjà y avoir une avancée vers Rome. Et ainsi, on verra Alaric Ier, roi des Visigoths, aller attaquer pour une première fois Rome. Et en 418, le fédus, c'est-à-dire un contrat d'association, sera passé au bénéfice des Visigoths en Aquitaine, avec les villes importantes de Toulouse, Bordeaux, et ne l'oublions pas, Poitiers. Et aussi, une autre partie de ces Visigoths poursuivra plus au sud, vers l'Espagne. Donc on voit petit à petit ces peuples arriver les uns à la suite des autres. En 451, alors là intervient un personnage sur lequel, qui parle à tout le monde, parce qu'on a des images de ce personnage, c'est Attila. Donc ce sont les raids uniques d'Attila. Attila rentre en Gaule par Metz, Troyes, Reims, mais son objectif n'a jamais été Paris, car Paris, Lutèce, à ce moment-là, est une petite ville qui ne compte quasiment pas. Ce qu'il veut, c'est filer vers l'Aquitaine. Et peut-être, la chose est discutée chez des historiens, mais peut-être visait-il d'ailleurs une installation en Afrique du Nord. Et là, c'est le rôle de Sainte-Geneviève, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, ou peut-être au détour d'une question à la fin de la conférence, car on ne peut malheureusement pas tout dire. Mais vous savez qu'en 451, Attila, donc bifurquant, ne se précipitant pas vers Paris, comme le craignaient les Lutétiens, malgré les propos rassurants, on peut dire prophétiques, de Sainte-Geneviève, qui avait dit qu'elle ne passerait pas par Paris, il va mettre le siège devant Orléans. Et à Orléans se trouve là un personnage tout à fait extraordinaire, qui est l'évêque d'Orléans, Saint-Aignan. Et Saint-Aignan va tenir tête à Attila. Saint-Aignan va même convoquer l'armée avec Aëtius, et ce sera le dernier grand rassemblement des armées romaines, ou ce qu'il en reste, parce qu'elles sont bien décrépites, vous comprendrez dans un instant pourquoi, avec ces nouveaux peuples barbares fédérés par l'Empire romain. Et en réalité, le siège d'Orléans échouera. Et en face de cet échec, les armées d'Attila vont repartir vers l'Est, d'où ils venaient naturellement, leur cantonnement étant à l'origine, ils viennent d'Iran. Mais leur cantonnement à cette époque se trouve plutôt dans la Pousta hongroise. Et pour repartir vers l'Est, ils vont quand même être poursuivis par Aëtius et donc les Visigoths, les Burgondes, les Bretons, les Alains, et bien sûr, on entend parler pour la première fois de ce peuple qui n'a pas fait beaucoup de bruit, et que sont les Francs. Et sur la fameuse bataille des Champs Cataloniques au sud de Troyes, le 20 juin 451. Où a eu lieu exactement la bataille des Champs Cataloniques? En l'état actuel de la recherche, y compris les recherches archéologiques, on peut dire que le lieu se situe dans une aire géographique qui irait de Troyes à Châlons en Champagne. Voilà, à peu près, le lieu précis n'a pas été identifié, pas plus que n'a été identifié d'ailleurs le lieu de la bataille de Vouliers, qui ne semble pas faire doute par les fouilles. Cette victoire remportée par Clovis en 507 sur les Visigoths, avant de les poursuivre ici même, d'ailleurs jusqu'à Toulouse. Après sa victoire, Moi qui suis poitevin, qui est beaucoup, qui est tout lu et qui est connu beaucoup d'archéologues et d'historiens qui se sont penchés, il n'y a pas de preuves probantes, on n'a pas trouvé de tombeau magnifique, on n'a pas trouvé de tombe plus exactement magnifique, on n'a pas trouvé d'âme particulière. Le lieu ne fait pas de doute, mais où a lieu la bataille de Vouliers ? Il y a d'ailleurs de grands débats sur le sujet. Je tiens toujours pour le lieu de Vouliers, à quelques lieux de Poitiers, qui reste le plus vraisemblable. Et donc, Attila ne réussira pas en 451 son invasion en Gaule. Et voici que sous la pression de ces barbares qui se précipitent tout le long du limès du Rhin, en 476, donc quasiment à la fin du 5e siècle, on peut dire que l'Empire romain d'Occident disparaît. Et on verra Odoacre, qui est un Illyrien, prendre le pouvoir à Rome, renverser le dernier empereur, Romulus Augustule. Curieusement, le dernier empereur porte le même nom que le fondateur de la ville de Rome, et il va le déposer. Il aura pitié de lui, ne le tuera pas, ne le massacrera pas, il l'en fera enfermer dans un monastère, et il enverra les insignes impériaux à Constantinople. Mais si nous revenons en Gaule, deux peuples, en cette presque fin du 5e siècle, sont face à face, les Francs et les Goths. Les Francs sont numériquement, d'ailleurs, en situation d'infériorité. Donc il y a cette vieille civilisation gallo-romaine, oserais-je le mot agonisante et peut-être excessif, mais enfin, une société qui est en train, un pouvoir de Rome en tout cas, qui est en train de s'effondrer. Mais néanmoins, la marque de Rome reste indélébile. Elle reste indélébile pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'il y a une adhésion des élites à ce que représentait la Romania, l'Empire. Et parmi ces élites, il faut compter, bien sûr, les évêques et les sénateurs. Vous verrez tout à l'heure pourquoi il y a un lien profond à faire entre les évêques et les sénateurs. Et puis, il y a aussi, plus exactement, la force des réseaux urbains, réseaux administratifs et réseaux ecclésiaux. Néanmoins, la romanisation reste inégale en Gaule. Elle est importante dans le sud, en Provence, en Languedoc, dans la vallée de la Garonne, dans la vallée du Rhône, dans la vallée de la Saône, en Moselle, sur le Rhin. Elle est beaucoup moins prégnante au nord, au-delà, 13, au-delà de la Loire, sur les bords de la Saône, entre la Somme et l'Escaut. La marque indélébile de Rome se caractérise sans doute aussi par un troisième point, qui est la grande richesse économique de l'Empire, avec une monnaie qui est tellement forte, trop forte pourrait-on dire, ça nous ferait sans doute un peu rêver aujourd'hui, donc un très fort pouvoir d'achat. Donc le problème n'est pas non plus un problème économique. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce recul de Rome dans sa pars occidentale ? Eh bien, nous devrions dire que c'est en réalité le problème tient à la nature des armées. L'armée a eu une très grande capacité à romaniser ses soldats germaniques, en les intégrant de façon régulière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Fédus. On va les faire vivre à la romaine, Et pour une partie d'entre eux, il y aura une adhésion à la foi chrétienne orthodoxe. Je vous renvoie à Saint-Martin de Tours, dont nous fêtons cette année le 17e centenaire de la naissance. Mais en même temps qu'il y a une grande capacité à assimiler ces populations barbares dans l'armée, il y a en même temps, parallèlement à ça, et on le voit bien à Rome, une influence de plus importante des barbares, et les barbares vont de plus en plus prendre et assumer les responsabilités et les postes d'officier. Nous y reviendrons. Alors regardons donc ce que représentent ces barbares dans la population. En réalité, assez peu. En Belgique seconde, c'est-à-dire ce qui correspond grosso modo à la province de Reims et de Tournai, pour que vous ayez une idée, ils sont 100 000. Les Goths, par le Fédus, en Aquitaine, ici, sont 100 000. Les Ostrogoths, dans le nord de l'Italie, sont 100 000. En réalité, autant qu'on puisse établir des statistiques, mais enfin, les historiens sont aujourd'hui à peu près d'accord pour considérer que, en réalité, ces barbares, opposés à la population qu'on appellera gallo-romaine, représentaient de 2 à 5% de la population. Au champ catalonique, par exemple, parlé à l'instant, 451, il y avait 50 000 hommes armés dans chaque camp. Donc, nous n'avons toujours pas la vraie réponse à notre question. Pourquoi ? Eh bien, en réalité, Michel Rouche l'a parfaitement bien démontré, la peur des barbares est en fait, se révèle être en réalité un révélateur en creux de la crise démographique romaine. Il y a effectivement une faiblesse numérique des citoyens romains dans l'armée. Une importance considérable des lettres. Les lettres sont ces barbares qui arrivaient, qui avaient une fonction militaire auxquelles on confiait des terres en quelque sorte pour les remercier, qu'on installait. D'abord, les installer près du limès, et puis après, de plus en plus à l'intérieur, sur les terres désertes du nord de la Gaule. Donc, apparaît déjà un déséquilibre démographique. Si nous jetons un œil rapide sur le code théodosien, sur cet empereur qui, 392, a officialisé pour l'Empire, la reconnaissance de la religion chrétienne, eh bien, il avait pris un certain nombre de mesures, en particulier qu'aucun provincial romain ne devait s'unir à une épouse barbare. Aucune provinciale ne pouvait s'unir à un gentil, attendez, un païen. Et si de telles unions se nouaient, elles étaient sanctionnées, plus ou moins théoriquement d'ailleurs, par la peine de mort. Cette ségrégation, cette peur des barbares, peur qui n'est d'ailleurs pas tout à fait irraisonnée, était surtout la peur de perdre la direction de l'armée. Parce que dans cette population gallo-romaine, il y a une très forte mortalité infantile. Il y a aussi dans les classes aisées, les classes sénatoriales, aristocratiques, il y a la limitation des naissances. On pratiquait déjà la contraception et l'avortement. L'empereur Valentinien Ier avait interdit de jeter les enfants sur des tas d'ordures où ils étaient dévorés par les chiens et les chacals. Et ce que nous voyons bien, c'est que cette société gallo-romaine est une société qui est riche elle est grâce, elle est repu. Et les décadences, je ne voudrais pas faire d'anachronisme ni forcer le ton, mais sans doute pouvez-vous établir quelque équivalence. Les sociétés décadentes sont des sociétés riches. Les sociétés pauvres ne sont jamais décadentes, elles ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Mais vous voyez bien tous les ferments de décomposition de cette société structurée qui est en train petit à petit de se mettre en place. Or, cette ségrégation, parce qu'évidemment les Gallo-Romains ne voulaient absolument pas de communication avec ces barbares, mais en réalité, cette ségrégation fut totalement inutile. Et je vais vous donner quelques exemples. Malgré les condamnations de l'adultère, punies de peine de mort depuis l'empereur Constantin, l'interdiction était faite aux jeunes veuves de prendre le voile avant 40 ans. Eh bien, dans cette société du 5e siècle, le mariage n'attire pas. Le concubinage, pourtant état de non-droit, dans le code théodosien, apparaît comme la condition principale des hommes. Saint Césaire d'Arles, grand évêque d'Arles, au début du VIe siècle, nous fait cette révélation dans ses homélies. Ajoutez à cela que le divorce par consentement mutuel et l'union libre ne facilitent pas la procréation. Et donc, pour citer encore Michel Rouche, on assiste en cette époque à une dissociation entre sexualité et fécondité. Et il commente « plaie des sociétés riches ». Alors ceci s'explique sans doute par une christianisation trop récente pour influer encore la morale conjugale. Et en 1425, pour prendre un exemple, en Afrique du Nord, par exemple, eh bien, saint Augustin et 300 évêques africains demandent à l'empereur Honorius, qui est pourtant un grand empereur chrétien, l'interdiction de reprononcer l'interdiction du divorce. Eh bien, il le refuse. Fécondité importante chez les païens aussi, même si pour le moment ils sont peu nombreux, car l'âge du mariage est fixé chez eux à 12 ans, chez les chrétiens à 18. Donc, nous avons un état démographique qui est extrêmement préoccupant vu du côté de l'Empire. Et donc, le dépeuplement, en réalité, s'accentue. Pour vous donner encore un exemple, en Belgique première, c'est-à-dire qui correspond grosso modo à la région de Metz et de Trèves, 50% des personnes meurent avant 20 ans. L'âge moyen pour les hommes est de 27 ans, de 22 pour les femmes qui meurent souvent à l'occasion d'accouchements. Et simplement 18% de la population atteint 80 ans et plus. Il faut ajouter à cela une pression fiscale qui faisait fuir les contribuables vers l'Église, ce qui poussera petit à petit le pouvoir à poser des règles, parce que pour échapper à la pression fiscale de l'État, on rentrait dans l'Église et l'Église se serait retrouvée à la tête d'un immense patrimoine que les empereurs ont lui accordé, mais avec une réglementation bien particulière, qui ne seront jamais des biens propres. Ce sont des biens qui auront un certain nombre d'exigences pour les utilisations. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, Rome, occupé à assimiler ces barbares intérieurs, lorsque, en 318 et 406, les germaniques font vraiment irruption dans l'Empire. Et là, de façon à peu près globale et uniforme, sur tout l'ensemble du limès, c'est-à-dire grosso modo, de l'embouchure du Rhin, pour me répéter, jusqu'à celle du Danube. Donc, on peut dire qu'en Gaule, trois peuples s'arrachent et se partagent dans un combat concurrentiel l'héritage de Rome. Alors, il y a d'abord les Goths et les Burgondes. Ce sont des Ariens qui ont été condamnés, ce sont des chrétiens, mais ariens, donc hérétiques, qui portent le poids des condamnations des conciles de Nicée de 325 et de Constantinople de 380. Et puis il y a plus au nord, là, vers à partir de la Somme, de l'Oise, mais surtout de la Somme, et jusque sur les rives de l'Escaut, il y a les Francs. Les Francs qui sont des païens, qui se disent, leurs rois se disent et se pensent successeurs et descendants des dieux. Et leurs dieux, que sont-ils? C'est Wodan et Odon, les dieux de la mythologie germanique, les dieux de la trilogie wagnérienne, et ces dieux tant aimés par ceux qui sont pour moi de véritables ennemis, cette droite radicale, païenne, qui existe aujourd'hui et qui tente de séduire mensongèrement les intelligents. Je pense à un imposteur, même si c'est un brillant intellectuel, qui s'appelle Alain de Benoît. Donc, nous sommes en plein paganisme. La nouvelle droite est païenne. Donc, quand elle rôde autour de vous, quand il y a longtemps que j'ai éliminé cette affaire de mon univers intellectuel, lorsque ça rôde autour de vous, je vous conseille de... Je sors un peu du cadre de la conférence, mais je pense que cette précision est nécessaire aujourd'hui, dans ce contexte où les esprits sont un peu trop déboussolés. Et donc le pouvoir politique de Rome dans ce contexte diminue davantage chaque jour. Les empereurs deviennent des fantoches entre les mains d'un personnage très important que sera Ricimère, dont je ne vais pas vous parler parce que ça nous mènerait trop loin, et surtout finira par cette prise du pouvoir par Odoacre en 476, qui sera empereur en 15 ans de bataille. Mais revenons en Gaule. Que se passe-t-il en Gaule à ce moment-là? Vous voyez toutes ces forces en présence. Nous avons un paysage sociologiquement très nuancé, des barbares, plus ou moins intégrés à l'Empire, pas réellement ennemis de l'Empire, et un Empire qui se délite, qui se désagrège. Alors, regardons quels sont les rapports de l'Église avec les institutions de cette époque. L'union de l'Église et de l'État a été proclamée, je vous le rappelle, en 392 par l'empereur Théodose. Et cela impliquait quelque chose de très important. C'est que les conceptions juridiques et sociales chrétiennes s'incarnent dans la société. Et donc, à partir de 392, on va assister à deux évolutions parallèles, un peu différentes. En Orient, là où le siège de l'Empire tiendra, je vous le rappelle quand même, jusqu'en 1453, l'Empire d'Orient, sous la pression des empereurs qui seront ariens, vont imposer à l'Église, on peut dire, le contenu du dogme, au nom de leur autorité, au nom de l'auctoritas, c'est-à-dire des interventions directes de l'empereur dans l'Église. Alors cela avait bien commencé avec Constantin au concile de Nicée, mais avec son fils Constance II, et si un jour nous étudions un peu en détail l'arianisme, vous verrez quelles ont été les influences néfastes de ce pouvoir. Et une des victimes de ces mauvais rapports, de ces rapports inversés entre le spirituel et le temporel, sera la mort, par exemple, de Saint Jean Chrysostome. Donc les évêques n'ont pas d'autorité, ils sont un peu aux ordres, on leur concède en fait d'administrer pour le bien de l'Empire, avant de se préoccuper sans doute du bien des âmes. En Occident, le problème se pose de façon différente, car l'empereur Théodose se trouve à un moment donné en butte avec saint Ambroise, le grand évêque de Milan, et Théodose avait fait massacrer à Thessalonique pour une révolte contre un gouverneur, avait fait massacrer un nombre impressionnant de révoltés. Alors la question est assez complexe, c'est-à-dire que les ordres ne sont pas arrivés à temps, enfin bon, bref, les choses sont un peu compliquées, mais enfin, il n'empêche que saint Ambroise a bien vécu comme ça et a imposé à Théodose une pénitence publique. Il l'a privé de sacrement. Et Théodose a accepté. Il a accepté, a fait pénitence. L'empereur d'Orient et d'Occident, le grand empereur, Théodose, le grand Théodose, n'est-ce pas ? Bien, le grand Théodose a accepté la suprématie de l'autorité spirituelle sur son autorité temporelle. Et c'est de cette date qu'est apparue dans les textes la notion qu'on traduit en général par bras séculier du pouvoir qui est un peu réducteur, mais la potestas. Donc, la potestas, le pouvoir, appartient à l'empereur, mais l'auctoritas, l'autorité spirituelle, morale, celle qui oblige en conscience, appartient à l'Église. Et dans ce contexte, on s'aperçoit que les évêques vont avoir un rôle politique absolument extraordinaire tout de même, parce que dans cette période de décomposition, c'est de cette époque que date l'expression de l'évêque « defensor civitatis », « défenseur des cités ». Donc, ce que les évêques ont pour satisfaire à toutes leurs exigences, d'abord, ils ont l'usufruit des terres qui leur sont concédées par le pouvoir impérial. Mais ils n'en ont pas la possession. Et tout ça pour... Et ils avaient souvent des revenus qui étaient accordés, mais pourquoi pas la possession parce que l'Empire veut rester maître des terres sur lesquelles il puisse y avoir non-dispersion de l'héritage, à cause évidemment des revenus fiscaux qui en reviennent pour l'Empire. Car je vous l'ai dit le mois dernier, je vous le redis aujourd'hui, je vous le dirai peut-être encore, tous les pouvoirs au cours de l'histoire sont insatiables en matière de fiscalité. Mais il y a aussi obligation pour eux de construire les bâtiments du culte, d'entretenir le clergé. Ils ont aussi la charge de l'éducation, l'accueil des pauvres, ce qu'on appelait la matricule, c'est plus que l'accueil, c'est l'entretien des pauvres, la matricule, le rachat des prisonniers, très important, le rachat des esclaves. Saint Remi de Reims rachète des dizaines d'esclaves dans son testament. Il a donné ordre que l'on relâche, il a racheté un certain nombre d'esclaves pour qu'ils soient libres. Donc, en Empire d'Orient, sous la pression des hérésies et d'empereurs hérésiarques, l'autorité impériale va s'imposer à l'Église. En Occident, sous l'impulsion d'un saint Ambroise, on va établir un rapport d'équilibre entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et dans ce contexte perturbé, à la lecture d'un paysage assez flou, on peut malgré tout constater un renouveau de la foi en Gaule. Car La chose s'est faite au début du Ve siècle sous l'impulsion de la pensée de saint Augustin. L'Église devient le refuge des pauvres et le lieu où les élites sénatoriales pourraient reprendre l'initiative. Parce que, en réalité, ces élites sénatoriales, même si elles ne sont plus à Rome, elles sont en Gaule, mais restent fascinées par l'universalisme de la romanité. Alors, dans ces familles, dans ces grandes familles aristocratiques, sénatoriales, il y a un mouvement de conversion absolument spectaculaire. Je vous donnerai trois exemples. Je vais commencer par vous citer Sidoine Apollinaire, qui est né à Lyon en 431, qui est issu d'une famille de hauts fonctionnaires. Il a même été préfet de Rome en 468. Il a prononcé trois panégyriques d'empereur. Il a même présidé le Sénat. La ville de Rome, à cette époque, a à peu près 300 000 habitants. Et brusquement, alors qu'il a atteint l'âge de 40 ans, en 471, il est élu évêque de Clermont-Ferrand. Rien de carriériste dans cette démarche, mais une prise de conscience que l'Église et la civilisation romaine sont mises en péril par les Visigoths ariens face à la persécution épiscopale qui est menée par le roi, qui réside ici, au sud de la Gaule, par le roi Euric. Il subira l'exil pour défendre la foi, il ne sera pas assassiné, et même après son exil, il reviendra d'ailleurs à Clermont. Donc, premier personnage, Sidoine Apollinaire, sa correspondance est passionnante, j'incite tous les étudiants en histoire passionnés par cette époque à lire sa correspondance. Elle est d'une richesse et surtout, elle est surtout extrêmement fiable au niveau de la critique des sources. Le deuxième personnage issu de cette aristocratie, c'est Salvien. Salvien, qui est né en 390-400, on n'a pas la date exacte de sa naissance, à Trèves, dans une famille sénatoriale. Il quitte sa famille et il se retire aux îles de Lérins, donc au large de Cannes, et se fait prêtre. Et il écrit un ouvrage qui a été très important à cette époque pour la pensée chrétienne occidentale, c'est « Du gouvernement de Dieu », le « De gubernatione Dei », qui est une espèce de pamphlet très virulent contre les chrétiens catholiques de son temps, qui l'accusent de n'être que des chrétiens de nom qui se vautrent dans le siècle. Et il suggère à ces personnes, baptisées souvent depuis longtemps, de se convertir personnellement au Christ. Et ce mouvement de conversion s'opère sous l'influence du mouvement monastique. Ne pas oublier qu'en 361, Saint-Martin, celui qui allait devenir Saint-Martin, le grand évêque de Tours, qui était un officier de l'armée romaine, débarque en Poitou à la renommée de Saint-Hilaire, ce héros avec Saint-Athanase de la foi nicéenne, débarque en Poitou à la réputation de Saint-Hilaire et importe le monachisme. Le premier monastère créé en Gaule, c'est Ligugé, aux portes de Poitiers, en 361, avec un ministère qui va se dérouler essentiellement dans les campagnes. Donc, le mouvement monastique est très important. Deux centres, Ligugé, Lérins, donc au large de Cannes. Alors, Lérins, fondé autour de 390 par saint Honorat, et ensuite viendra avec saint Jean Cassien, viendra Saint-Victor de Marseille en 410. Et d'ailleurs, ces élites sénatoriales vont se convertir dans la vie monastique. Et lorsque on verra le moine Martin, élu à l'évêché de Tours, ce sera le premier moine à devenir évêque. Il ne s'agit pas, pour Salvien, dans son De Gubernatione Dei, d'une misanthropie, mais d'un mépris du monde qui doit pousser à la sainteté personnelle. Son constat de départ est que ni l'Empire, ni l'Église, écoutez ça parce que je pense que ça vaut aussi pour aujourd'hui, ni l'Empire, ni l'Église ne peuvent se réformer par elles-mêmes. Ce qui peut les transformer, ce qui peut les aider de l'intérieur, c'est l'action de la grâce, qui seule peut convertir les cœurs. Donc voilà, troisième personnage important issu de cette aristocratie gallo-romaine qui se convertit. Et puis le troisième, c'est un laïc marié, prospère, né en Aquitaine en 400, qui se retrouve en 462 dans les îles de Lérins, lui aussi, va être attiré à la vie monastique de Lérins. C'est un ami de saint Augustin. Il est même, lui, laïque, marié, qui va devenir moine, conseiller du pape Léon Ier le Grand, de 440 à 461, puis il rentre en Gaule. Et il nous intéresse au premier chef parce qu'il est le véritable théoricien d'une théologie de l'histoire. Figure parfaitement accomplie de ces évêques qui s'ouvrent aux barbares pour les convertir, pour reprendre la forte expression de Godefroy Kurt. Il y a, dit-il, aux extrémités du monde, des peuples que la grâce n'a pas encore illuminés. Et en 479, âgé, on le retrouve évêque d'Orléans, successeur de Saint-Aignan. Donc, si vous prenez Sidoine Apollinaire, Prosper d'Aquitaine, si vous prenez tous ces membres de la haute aristocratie romaine, gallo-romaine, qui se convertissent, constater que ce sont tous des laïcs. Et ce sont des laïcs qui se sont convertis. Ce qui constitue, et qui constitue à cette époque, l'ensemble du collège épiscopal de la Gaule. C'est la même chose pour Saint-Germain d'Auxerre. C'est la même chose pour Saint-Loup de Troyes. Et si on prend une femme, Sainte-Geneviève, peut-être j'en dirai un mot si on me pose une question, parce que je ne voudrais pas trop déborder, mais elle aussi était une laïque richissime, mais qui était pleinement engagée dans une vie d'Église. Et donc, voyez comment les choses sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire que c'est issu de cette vieille aristocratie gallo-romaine. Il y a les meilleurs, j'allais dire, ont compris que pour sauver l'Empire, il fallait passer au Christ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais pour vous donner une idée, en 314, au début du IVe siècle, il y a en France, enfin en Gaule, pardon, il y a 22 diocèses. Et nous avons une date et un élément qui nous permet de le fixer très bien, c'est le concile d'Arles qui a réglé la crise de Natiste en 314. Au début du Ve siècle, donc on va dire un siècle après, il y en a 70. Et en jetant un œil sur la géographie ecclésiastique de la Gaule au milieu du Ve siècle, on s'aperçoit que le nord de la Gaule a été germanisé par cette arrivée des Francs qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, qui n'ont rien dévasté. Ils sont païens, mais après tout, l'idée de Rome qu'ils doivent avoir est d'une vieille Rome païenne, et encore la Rome n'est pas encore complètement convertie, surtout qu'elle est en totale déconfiture en Occident. Mais en tout cas, au nord de la Gaule, il y a un recul de l'Église et il y a une réapparition du paganisme sous l'influence de ces Germains, entre autres. Et au nord, pour vous donner des chiffres qui mériteraient d'être commentés, mais pour vous donner des idées justes, il y avait à peu près, au début du 5e siècle, je vous l'ai dit, 70 évêchés. Au milieu de ce 5e siècle, 15 évêchés subsistent au nord de la Loire sur 40. 15 subsistent sur 40. Et au sud de la Loire, à cause de l'arianisme, 12 sièges sont vacants sur 30, et ça, c'est à cause de la persécution des Visigoths. Donc voilà où nous en sommes. Que va-t-il se passer ? Eh bien, il va se passer ce que moi j'appelle, de façon sans doute un peu apologétique, l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. Dans ce climat de crise, en 459, surgit au nord de la Gaule un jeune homme de 22 ans. Il est élu évêque de Reims, Rémy Guy, Remy. Sans doute d'ailleurs a-t-il fallu l'autorisation de l'empereur, car la loi interdisait l'ordination sacerdotale, la loi théodosienne, Théodose dont je vais parler, avant l'âge de 30 ans. Il appartient lui-même à cette haute aristocratie gallo-romaine, il est sénateur, il est lettré, il est propriétaire terrien, il travaille lui-même sa terre de ses propres mains. Il n'exerçait alors aucune charge civile, contrairement à Sidoine Apollinaire, comme je vous l'ai dit, qui a été préfet de Rome, qui a présidé le Sénat romain, etc. C'est un homme rigoureux en matière de droit civil, de droit canon, et il est respectueux du pouvoir politique. Et à 45 ans, il est le doyen de tout l'épiscopat de la Gaule. C'est-à-dire que tous les personnages importants de ce début du règne de Clovis, de cette conversion de Clovis, de ces évêques contemporains, il est le doyen de tous, et chose prodigieuse, il les enterrera tous. Il verra la fin de tous les acteurs du drame qui se joue dans cette seconde moitié du 5e siècle, puisqu'il mourut, et ça c'est certain, à l'âge de 96 ans, en 533. Donc il y avait plusieurs sources de recrutement pour l'épiscopat. L'origine sénatoriale, les grandes familles sénatoriales, je n'y reviens pas, Remy de Reims, Loup de Troyes, Germain d'Auxerre, Césaire d'Arles, Avide de Vienne. Il y avait les laïcs convertis, Sidoine Apollinaire, Salvien, Prosper d'Aquitaine. Et en général, ces laïcs se sont convertis auprès des moines de l'Hérens. Vraiment, l'Hérens était la source épiscopale de la Gaule dans ce 5e, 6e siècle. Et puis, il y a l'exemple de Saint-Martin et l'influence de son clergé. Et pourquoi c'est important, cette influence ? Parce que là, ce sont les gens du peuple. Car dans la première partie, les appartenances sont sociologiquement définies. Il s'agit des hautes sphères de la société. Avec Saint-Martin, son ministère, c'est à 16. Vous savez qu'il ne vivra jamais dans le palais épiscopal de Tours. Il vivra à Marmoutier, dans sa grotte. Il vivra vraiment comme un moine et comme un ascète, comme un père du désert, d'une certaine manière. Et Martin de Tours va être à l'origine d'un engouement et d'un mouvement de conversion. C'est à lui en particulier que l'on attribue à juste titre. Et une très belle biographie chez Fayard, parue il y a maintenant 2 ans, d'Hubert Guillotel, extrêmement intéressante, sur Saint-Martin. C'est à lui qu'on doit la constitution et l'invention des paroisses. Et il se trouve, donc il a rejoint Hilaire de Poitiers en 361, qui revenait de son exil en Phrygie, exilé par Constance II, le fils de Constantin, et qu'après sa mort en 397, il aura une explosion de miracles sur son tombeau. Ses successeurs construiront une magnifique basilique que décrit Grégoire de Tours dans l'Histoire des Francs, dans l'Historia Francorum. Sous l'épiscopat d'un grand évêque de Tours qui s'appelle Perpétus, en 458-488. Et Tours est devenu, à cause du tombeau de Saint-Martin, ce centre, non seulement un centre de pèlerinage pour toute la Gaule, mais va devenir surtout un bastion de la foi trinitaire. D'ailleurs, sitôt après sa mort, en 397, son grand ami Sulpice Sévère écrit sa première biographie. En 470, donc un siècle après, Paulin de Périgueux publiera aussi une vie de Saint-Martin. Et donc Tours se trouve à l'origine de tout un réseau spirituel qui va irriguer la Gaule à cause de ses pèlerinages. Mais ce n'est pas un hasard non plus. Si, dès 469, Tours va subir l'assaut des Visigoths, qui vont provoquer l'exil de 2 évêques successifs, Volusien et Verus. Mais Tours restera spirituellement le centre de résistance aux Visigoths. Euric, le roi des Visigoths, s'est fait persécuteur, et nous avons... Alors nous retrouvons la correspondance de Sidoine Apollinaire, force détail, lui qui échangeait avec les évêques de son temps, et surtout ceux qui étaient dans les provinces sous domination visigothique. Et donc nous avons là des renseignements de première main. Donc voilà cet élément de géographie ecclésiale, politique de la Gaule du Sud. Et alors, allez-vous me dire, mais alors Clovis dans tout ça? Eh bien, les événements, à partir de maintenant, vont se précipiter. Car le redressement spirituel dû à l'épiscopat avait précédé le redressement politique grâce à la collaboration des évêques avec Clovis. Lorsque le père de Clovis meurt, le roi Childéric, roi de Tournai, en 481, nous savons qu'il avait d'excellents rapports déjà avec saint Remi de Reims. Et voici ce que saint Remi écrit au moment de l'avènement de Clovis. « Une grande nouvelle nous est parvenue. Voici que tu assumes l'administration de la Belgique seconde. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tu deviennes ce que tes parents ont toujours été. Montre-toi plein de déférence pour tes évêques et recours toujours à leur avis. Si tu t'entends avec eux, ton pays s'en trouvera bien. » Donc, avant même sa conversion, les liens entre les Francs païens et l'épiscopat de la Gaule, les liens sont profonds. Et à l'automne 486, lorsqu'il aura cette cette fameuse première bagarre à propos du vase de Soissons. Ah. Alors, vous savez que d'abord, il y avait un roman de Gaston Bonheur, paru dans l'entre-deux-guerres, entre la première et la seconde, qui disait « Mais qui a cassé le vase de Soissons ?» Ben, personne n'a cassé le vase de Soissons. La véritable histoire du vase de Soissons est la suivante. L'armée avait pillé le trésor de la cathédrale de Soissons. Or, il se trouve que l'évêque de Soissons était un neveu de Saint-Remy de Reims. Et donc, lorsque le butin était partagé, les lots étaient faits, ils étaient tirés au sort. Et personne ne pouvait choisir son lot, pas même le roi. Mais à la demande pressante de Saint-Remy, pour son neveu, le vase, en fait, est un calice. Et donc, Clovis a demandé à ce soldat d'avoir de récupérer le vase. Ce vase, d'ailleurs, qui sera récupéré. Contrairement à ce qu'on raconte, le vase n'a jamais été cassé. Mais au printemps suivant, au Champ de Mars, lorsque les armées étaient passées en revue par tous leurs chefs, c'était vrai chez les rois barbares comme c'était vrai dans l'Empire, hein, il y avait une inspection des armes. Et voici que ce soldat récalcitrant, cet intrusion récalcitrant qui avait quand même manifesté assez peu de bonne volonté pour restituer ce vase au nom de la règle, c'est vrai, avait des armes dans un très mauvais état. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'est baissé pour ramasser son arme, à ce moment-là, Clovis l'a tué. Mais le vase de Soissons n'a jamais été détruit, contrairement à ce que tout le monde pense, et comme quelquefois même dans les livres d'histoire, autrefois, quand on faisait encore de l'histoire, vous savez, ces images un peu caricaturales, mais enfin néanmoins, qui fixaient les choses, eh bien, on pensait que le vase n'a jamais été cassé. Mais au printemps 495, les choses vont devenir nettement plus intéressantes pour ceux qui nous intéressent. C'est la première campagne menée par Clovis en Aquitaine et qui va le conduire jusqu'à Saintes à l'occasion de l'exil de l'évêque Volusianus qui sera exilé de 488 à 496. Donc il y a déjà une première pénétration de Clovis jusqu'à Saintes. Au printemps, en été, pardon, 496, là, c'est la grande bataille contre un autre peuple germanique concurrent, les Alamans, dans la région de Metz. C'est la fameuse bataille de Tolbiac. Et là, on ne sait pas trop comment les combats vont évoluer. Qui va remporter la victoire ? Elle est incertaine, comme bien souvent d'ailleurs dans ces bagarres, dans ces batailles. Et voici que Clovis, qui a épousé une princesse chrétienne, Clotilde, est chrétienne. Elle adhère à la foi nicéenne, elle est de famille arienne, mais elle s'est convertie. C'est une Burgonde. Les Burgondes étaient installées entre Lyon et Genève, pour que vous ayez à peu près une idée. Et là, il va se souvenir de ce moment incertain. Vous savez, quand les choses vont mal, on se jette aux pieds du bon Dieu. C'est intéressé, mais enfin. Et donc, il s'adresse au Dieu Clotilde. « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me convertirai. » Il a effectivement remporté la victoire, c'est ce qu'on appelle le vœu de Tolbiac. Alors, il y a eu de très grandes discussions autour du vœu de Tolbiac. Je vous ferai grâce de tous les débats de l'histoire critique sur le sujet, qui ont été extrêmement utiles, parce que c'est comme ça qu'on a pu approfondir les textes et les sources et arriver à une vision. Le vœu, en tout cas, est bien réel. Mais Clovis ne va pas se conduire, se convertir immédiatement. Et pourquoi? Eh bien, parce que on voit très bien ce roi dont la foi chemine. C'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui avance. Ce n'est pas, il n'y a pas eu l'espace de coup de baguette magique, miraculeuse qui fait non. Ce n'est pas saint Paul sur le chemin de Damas, pas du tout. Et on voit bien, puisqu'il aura, il va perdre un premier fils, et évidemment, lorsque ce premier fils va mourir, il va avoir envie de se révolter. Mais Clotilde va arriver à le calmer. Il y en aura un deuxième. Et le deuxième, lui, très malade, à la prière de Clotilde, sera épargné et il sera sauvé. Mais c'est au lendemain de Tolbiac que Clovis étant dans de bonnes dispositions, la reine Clotilde, qui certainement est depuis longtemps proche de Sainte Geneviève, mais proche aussi de Saint Remi de Reims, fait instruire son mari en secret. Et il va donc être tout simplement catéchisé. Il va aider d'ailleurs en cela par un autre évêque, Saint Va. Saint Va, si vous voulez traduire en français moderne, c'est Gaston. Saint Va, qui va devenir évêque d'Arras, qui est un moine, qui vit à la limite de l'Aisne et de la Champagne, que vous situiez, et dont nous connaissons parfaitement la vie, par la vita de Jonas de Beaubio. Et donc, Clotilde appelle Remi en secret. Et en 498, une deuxième campagne d'Aquitaine, qui suit l'exil du second évêque de Tours, c'est-à-dire Verus après Volusianus. Et à cette occasion, Clovis va faire un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin de Tours. Et c'est à l'issue de cette campagne de 498 qu'il écrit aux évêques de la Gaule pour les inviter à son baptême. Alors je vais sans doute vous surprendre ce soir, j'espère ne pas vous scandaliser, mais 496 n'est certainement pas la date à laquelle a eu lieu le baptême de Clovis, parce que entre le vœu qui a eu lieu sur le champ de bataille l'été 496 et le catéchuménat durait à peu près 3 ans à cette époque, et c'était une procédure qui ne supportait pas d'amendement. Hein. Quand on voit toutes ces démarches de foi, et pour concilier différentes sources, bon, je n'ai pas le temps de vous faire le détail là ce soir, vraisemblablement, il a été baptisé à la Noël 498, ou mieux, c'est l'opinion d'ailleurs de Michel Rouche, en 499. Parce qu'il a fallu le temps de convoquer tous les évêques. Pour que les évêques se déplacent, il fallait qu'ils aient toutes les autorisations du souverain desquels ils dépendaient. Mais il y a une chose qui est certaine, puisque saint Avit, évêque de Vienne, n'est pas venu parce qu'il était dans le royaume de Burgonde et que le roi des Burgondes n'a pas voulu l'autorisation parce qu'il était un rien, mais dans cette belle lettre qu'il écrit à Clovis à l'occasion de son baptême, ce qui nous renseigne sur le fait que Clovis a invité tous les évêques pour ce baptême, il y a cette très belle phrase, une main multiple des évêques assemblés, pour parler de son baptême, une main multiple des évêques assemblés. Et on peut dire que ce jour-là, la romanité catholique est à Reims et la romanité arienne est à Rome. Parce qu'à ce moment-là, règne à Rome un antipape, l'antipape Laurent, qui a été élu à une grande majorité contre Symmaque. Et vous comprendrez que lorsque Grégoire de Tours va reprendre dans son Historia Francorum, presque un siècle après les faits, pas tout à fait 70 ans après les faits, son Historia Francorum va raconter ça, d'où le parallèle qui va naître entre la conversion de Constantin et la conversion de Clovis, et faire effectivement de Clovis un nouveau Constantin. Alors le jour du baptême arrive, dans cette nuit de Noël. Il est sûr, c'est Noël, c'est sûr. Dans cette nuit de Noël. Et alors, il y a donc le baptême se fait à cette époque, l'Église primitive, et les Églises orientales d'ailleurs l'ont maintenu, se font toujours par immersion. Donc il y a une cuve baptismale, avec des, en général de forme octogonale. Hein. Vous avez une arrivée d'eau à la hauteur, grosso modo, très au-dessus des genoux, hein, très au-dessus des genoux, à mi-cuisse, et puis vous avez un autre. Il fallait que l'eau soit courante pour appeler le Jourdain, et vous aviez en bas, vous aviez aussi un conduit d'évacuation. On voit très bien ça aujourd'hui, par exemple, au baptistère Saint-Jean de Poitiers, qui est relativement bien conservé, qui nous montre toute cette structure. Et puis vous aviez des marches pour descendre, puisqu'à ce moment-là, vous descendiez nu dans la cuve baptismale. Mais au bord de la cuve, et ça c'est effectivement Grégoire de Tours, qui reste quand même la source principale, mais il était tellement proche, lui, il était évêque de Tours, mais vous savez qu'après la mort de Clovis en 511, Sainte Clotilde se retire à Tours, à l'abbaye, près de l'abbaye Saint-Martin. Et donc, les moines de Tours vont, le clergé tourangeau de Saint-Martin en particulier, va recueillir toutes ces traditions de la famille mérovingienne qui a assisté à ces événements. Et en réalité, c'est ce que Grégoire de Tours va retranscrire, parce que ça s'est inscrit dans la mémoire des moines de Saint-Martin. Et lorsque Clovis, au moment de descendre dans la cuve baptismale, c'est un roi païen. Il a une chevelure très longue, et vous savez que leur divinité, on considérait que ces cheveux longs étaient l'expression de leur puissance divine. Et c'est pour ça que lorsque le dernier mérovingien sera enfermé dans ce monastère de Saint-Omer, là où aujourd'hui c'est dans le Pas-de-Calais, hein, par ordre de Pépin le Bref, on disait qu'on coupait les cheveux, on ne coupait pas les cheveux. On décalotait, on dépeçait, pour être sûr que les cheveux ne repoussent pas, parce que ces cheveux étaient un signe païen de la divinité. Et donc on dépeçait, purement et simplement, on décalotait avec la peau. Les temps étaient durs. Bon. Et donc, voici que Clovis se trouve là, au bord de la piscine, et vous avez tous entendu cette expression « Courbe ton front, fier Sicante ». Alors, il se trouve que lorsqu'on prend les textes, Jean Houillot, le professeur à Louvain, et puis ensuite Michel Rouche ont repris, et moi je fais mienne tout à fait cette interprétation, c'est que lorsqu'on regarde le texte, il ne s'agit pas tellement, parce que « courbe ton front, fier Sicante », c'est une formule qui sonne bien sur le plan littéraire, mais en réalité, c'est « déponé colas colère ». Dépose tes colliers. Et pourquoi déposer des colliers? Parce que ces colliers, ces amulettes qu'il avait autour de lui, avec sa chevelure, étaient le signe de sa divinité d'origine païenne. Et donc, avant le rituel du baptême, eh bien, il faut se dépouiller de ces colliers qui symbolisaient la royauté sacerdotale chez les païens. Parce que dans le paganisme, le roi est prêtre. Donc ce sont de véritables talismans. Et on a trouvé dans des fouilles archéologiques, à Tchernikov en particulier, je crois que c'est à côté de Prague, on a trouvé des rois barbares avec toutes ces amulettes. Donc le roi prêtre germanique était possédé par le Hel, c'est-à-dire par cette force qui donne la victoire. Et dans la mythologie scandinave et germanique, il s'agit du collier d'une déesse qui était porteur de prospérité et de gloire. Donc le fait que Remi lui demande au seuil de déposer ses insignes du paganisme sont non seulement vrais, mais sont surtout parfaitement cohérents. Et surtout, ce qui est très important, c'est que Clovis, déposant sur le bord de la piscine baptismale ses amulettes et ses colliers, renonçait à son pouvoir charismatique propre à la royauté païenne pour pénétrer dans le monde chrétien où le roi et le prêtre sont deux fonctions sacrées mais séparées. Le roi n'est pas prêtre et le prêtre n'est pas roi. Le roi reçoit même sa mission du prêtre. Et donc ici, on retrouve la vieille idée, enfin pas si vieille que ça à l'époque d'ailleurs, mais du pape Gélase, qui a établi une distinction des pouvoirs entre le spirituel et le temporel, mais la distinction n'est pas une opposition, mais elle n'est pas non plus une fusion. C'est une espèce, le mot peut être un peu osé, mais c'est une espèce de syntonie. Et donc, ce jour de Noël, 498 ou 499, là est baptisé le premier roi païen d'Occident, avec la communion de tous les évêques de la Gaule qui avaient été invités. Saint Avit, enfin celui qui sera devenir Saint Avit, n'a pas été invité parce que son roi n'a pas autorisé. Et donc, après cela, eh bien, Clovis ne va pas devenir un ange pour autant, parce que Clovis va éliminer quand même tous ses cousins, le plus ou moins éloignés, qui étaient aussi rois de petits royaumes francs, encore en Allemagne. Il ne sera pas tendre, on ne peut pas dire que la conversion n'a pas fait de lui un saint, en tout cas. Hein. Mais, enfin, en tout cas, il devient chrétien, et surtout, alors il va doter les églises. Alors, Tours, évidemment, va renaître, Poitiers sur le tombeau de Saint-Hilaire va renaître, mais tous les grands sanctuaires vont renaître à partir de lui. Et surtout, après 507, après cette fameuse campagne d'Aquitaine, la bataille de Vouillé, où donc les Visigoths seront renversés, et il les poursuivra jusqu'à Toulouse. Et il passera l'hiver à Bordeaux, près de l'évêque Cyprien, qui est un grand évêque aussi gallo-romain, dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais qui est un grand personnage de l'Église au début du VIe siècle. Et quelques mois avant de mourir, il fera ce qu'a fait Constantin en 325. Il le fera à Orléans en 511, où il va convoquer les évêques de la Gaule sous la présidence du métropolitain de Bordeaux, Cyprien. Et là, on peut dire que c'est l'acte de création officielle des annales de la monarchie française et de l'Église des Gaules, puisqu'à partir de là, il va y avoir une longue suite de conciles mérovingiens qui sont particulièrement étudiés, qui le sont encore de nos jours, et je vais vous donner un exemple qui est assez stupéfiant. Un de mes amis qui en ce moment travaille sur Incmar de Reims à la Sorbonne dans ce qu'on appelle un séminaire avec le professeur Sassier, eh bien, il y a là deux étudiants en troisième cycle qui sont deux noirs d'ébène, dont l'une d'une fille et d'un garçon, donc elle prépare sa thèse sur les conciles mérovingiens, et le garçon, lui, la prépare sur Incmar, archevêque de Reims, au IXe siècle. Eh bien, il y a aujourd'hui, sachez-le, dans les universités françaises, y compris d'ailleurs des Arabes, et j'en connais, qui font des thèses de troisième cycle sur la christianisation de la Gaule et de l'Occident. Je pense, pourquoi je vous dis ça, pour que vous ne perdiez pas totalement courage, que vous ne pensiez pas que tout est foutu, même si tout ne va pas bien. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, et ce sera ma conclusion, ce qui nous concerne, nous, ce qui nous oblige, nous, en conscience, c'est de nous poser une question. Je vais vous la poser, pour que vous la posiez calmement, rentrez chez vous dans les jours qui viennent. Vous voyez de quoi vous êtes héritier, de quoi nous sommes faits. C'est-à-dire dans quoi nous avons été engendrés et par qui nous avons été engendrés dans des circonstances difficiles, car les circonstances sont toujours difficiles. Saint Paul le disait, je vous l'ai dit, je crois, le mois dernier, je vous le redis aujourd'hui, Saint Paul le disait déjà, les temps sont mauvais. Pour un chrétien, les temps sont mauvais, mais c'est quand ils sont mauvais qu'ils témoignent du Christ. Alors la question qu'il faut se poser, non pas la poser aux autres, se poser à soi-même, et ce sera ma phrase de conclusion, sous forme de question, les peuples, les hommes qui n'ont pas de mémoire, ont-ils encore un avenir ? Je vous remercie.
Merci, cher ami, pour votre belle conférence, qui est aussi une belle porte d'espérance, car quand on regarde un petit peu la manière dont on vivait dans ces premiers siècles de l'Église, on a un peu l'impression parfois de retrouver les mêmes choses. Et donc, nous attendons qu'il y ait un grand miracle, c'est-à-dire qu'il y ait parmi nous des élites qui se lèvent et qui transmettent ce qu'un Clovis a pu transmettre. Alors, cette possibilité d'avoir des élites parmi nous, c'est une réalité. C'est aussi à nous de répondre à la vocation qui est la nôtre et qui nous est donnée par le bon Dieu. Je ne voudrais pas refaire une conférence, donc je vais arrêter là. Simplement, s'il y a quelques personnes qui veulent
poser des questions,
c'est possible. Et à la fin des questions, j'appellerai Alice pour qu'elle nous parle de la crèche vivante, qui est aussi une occasion de témoigner de notre foi et aussi de réchauffer nos cœurs, parce que nos corps commencent à être un peu frigorifiés. Des questions ? Pas de questions ? Pas de questions ?
C'est pour savoir que les élèves qui passent, les étudiants,
oui. Oui. Ah ben, ils ont fait leur cursus, en tout cas leur cursus supérieur, ils sont venus le faire en France. Alors je n'ai pas de détails sur leur... Je ne sais pas, parce que moi je ne les connais pas. Mais c'est cet ami qui me disait ça cette semaine. Il me disait, figure-toi, mais tu vas pas me croire. Il m'a dit, il y a deux étudiants noirs en troisième cycle dans le séminaire du professeur Sassier. Donc on est déjà à un niveau assez élevé. Une qui s'intéresse au concile mérovingien, à l'épiscopat mérovingien, et un autre à Hincmar de Reims. Mais vous savez, il y a quelques années, j'étais à Rome, place Saint-Pierre, au mois de juillet, pour une audience de Benoît XVI, et puis à ce coup, il y a eu un orage épouvantable, et j'avais une de mes filles qui faisait ses études à Rome, et donc on se réfugie sous la colonnade du Bernin. Et puis, il y avait là un prêtre noir. Donc la conversation s'engage, ma fille parle bien italien, parle italien, puis moi, et puis donc j'étais curé d'une petite paroisse derrière Saint-Jean-de-Latran, et je lui dis, je suis venu faire des études. Et je lui dis, qu'étudiez-vous ? Il me dit, j'ai étudié la philosophie. Je prépare une thèse. Donc je me demandais sur quel était son sujet. Et puis il m'a dit, je suis venu faire une thèse sur Augustin Cochin pour critiquer l'esprit des Lumières. Il était noir d'ébène. Hein. Et alors, je lui dis, mais comment ? Je ne sais plus de quel pays il était, je lui ai demandé. Je lui dis, mais comment avez-vous entendu parler d'Augustin Cochin ? Ah, bien, il me dit ça, monsieur, c'est un vieux missionnaire qui m'en a parlé. Mais je m'attendais à tout, mais Augustin Cochin. Sur la critique de l'esprit des Lumières. Donc vous voyez, en fait, il faut semer. Vous savez, saint Paul le dit, un sème, un arrose, un autre récolte. Mais ne nous lassons pas de semer. Ne nous lassons pas de semer.